Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, il faut revenir sans cesse sur ce qu'est l'Église, sur la place de chacun d'entre nous dans l'Église, en particulier la place du pape. La situation actuelle avec notre pape François, qui est un véritable collaborateur des mondialistes et de l'arc-en-ciel pour démolir l'Église, nous oblige justement à pas revenir seulement sur le sujet, mais à vous exposer en profondeur ce sujet. En effet, notre Seigneur dit dans l'Évangile, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Nous avons reconnu le fruit du concile, qui était le nouveau rite de la messe, qui nous a aidés à comprendre ce qu'était le concile. Et aujourd'hui, nous avons les fruits du pape François, qui nous aide à réagir, et notamment à nous apercevoir que nous avons certainement accordé plus d'importance au pape que notre Seigneur ne nous l'avait demandé. Il ne s'agit pas de changer la théologie de l'Église, il s'agit de redécouvrir la vérité qui avait été déformée au cours des siècles. Je vous expliquerai un jour pourquoi, ce n'est pas le sujet du serment. Aujourd'hui, l'actualité nous permet de bien illustrer notre propos. Monseigneur Strickland est un évêque américain courageux qui a dénoncé le comportement et les erreurs du pape François. Malheureusement, le pape vient de le démettre de ses fonctions et Monseigneur Strickland a accepté. Monseigneur Vigano le lui reproche gentiment, mais nettement. Il faut donc que nous regardions ce qu'il en est. Premièrement, les faits. Monseigneur Strickland, qui est un évêque au Texas, en Amérique, qui tout d'abord commença par être favorable au rite traditionnel de la messe, puis qui soutint Vigano dans l'affaire McCarrick, cette affaire terrible dans laquelle Monseigneur Vigano, qui était nonce apostolique aux États-Unis, a découvert des horreurs dans le comportement de ce cardinal et de d'autres membres du clergé, l'a dénoncé à Rome et a fini par s'apercevoir que le pape en personne soutenait McCarrick. Finalement, grâce à Monseigneur Vigano, l'affaire a fait trop de bruit et le pape a été obligé de lâcher McCarrick. Eh bien, Monseigneur Strickland a soutenu Monseigneur Vigano dans cette affaire, ce qui est une preuve de courage. Ensuite, il dénonça les erreurs graves de François, du pape François, que ce soit la communion aux divorcés remariés, et puis les erreurs sur le grave vice de... Il y a des mots que saint Paul nous demande de ne même pas prononcer, surtout que des enfants peuvent entendre ce serment. Le nonce apostolique, le nouveau nonce qui a remplacé Monseigneur Vigano, lui déclare qu'il doit se calmer car le pape a les yeux sur lui. Et Monseigneur Strickland lui dit qu'il défend le dépôt de la foi, qu'il protège le dépôt de la foi, ce à quoi le nonce répond « Il n'y a pas de dépôt de la foi ». On n'est plus dans les hérésies, là, on est vraiment dans l'apostasie complète et totale. Car s'il n'y a plus de dépôt de la foi, alors il n'y a plus de salut, on ne sait rien sur Dieu, on ne sait rien sur Jésus-Christ, il n'y a plus d'église, etc. Le pape, selon sa méthode habituelle, envoie des visiteurs apostoliques, c'est-à-dire des gens qui vont chercher les petites bêtes, et notamment quand on ne trouve rien à reprocher du côté des mœurs, comme ce fut le cas pour l'évêque de Paris qui aurait mis la main sur le genou de sa secrétaire avant qu'il soit évêque. On trouve toujours des fautes de gestion ou, à défaut, une gestion qu'on déclare non conforme à ce qu'elle aurait dû être. Les visiteurs apostoliques n'ont rien trouvé. Comme vous vous rappelez, ceux qui avaient déjà des évêques qui avaient été envoyés au séminaire d'Écône pour trouver des moyens de condamner Mgr Lefebvre et qui n'avaient rien trouvé, si ce n'est qu'il y avait deux tabernacles contenant le Saint-Sacrement alors que l'Église n'en permet qu'un. Tant pis, le pape lui demande de démissionner et très courageusement, Mgr Strickland refuse, disant qu'il n'abandonnera pas son troupeau. Mais, hélas, il déclare que si le pape le démet de ses fonctions, alors il ne s'y opposera pas, car le pape détient le pouvoir suprême dans l'Église. Et de fait, il y a quelques jours, le pape l'a démis de ses fonctions et Mgr Strickland a aussitôt accepté. Mgr Vigano a publié un texte qu'il a intitulé « Quo vadis Joseph ?»« Où vas-tu, Joseph ?» C'est une référence à un épisode de l'histoire de l'Église avec Saint-Pierre. Lors des persécutions à Rome, Saint-Pierre sortit de Rome pour échapper à la persécution et notre Seigneur lui apparaît sur la route. Et Saint-Pierre lui dit « Où allez-vous, Seigneur ? Quo vadis ?» Notre Seigneur lui répond « Je vais à Rome me faire crucifier une deuxième fois, puisque toi tu refuses. » Saint-Pierre comprend la leçon. Il faut avouer que c'est une leçon importante. Il faut comprendre que le sang des martyrs est semence de chrétiens, et que lorsqu'on accepte la persécution par fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, celui-ci fait porter à la persécution beaucoup de fruits. Donc Mgr Vigano dit à Joseph Strickland « Quo vadis Joseph ? Où vas-tu Joseph ?» et en quelques trois paragraphes bien frappés, il lui rappelle qu'un pasteur doit défendre son troupeau et ne pas s'en éloigner, surtout d'ailleurs lorsque le loup est présent et attaque le troupeau. Nous trouvons exactement dans cette situation, à savoir que le loup est en train d'attaquer et vient de demander à Mgr Joseph Strickland de s'écarter de sa route parce que lui, le loup, veut pouvoir dévorer les brebis sans aucune difficulté et sans opposition. Vu comme cela, évidemment, on ne peut que donner raison à Mgr Vigano. Beaucoup de libéraux ou de conservateurs qui ressemblent à Mgr Strickland louent le courage de celui-ci, y compris dans sa résignation, et considèrent que la déclaration de Mgr Vigano n'est qu'un soutien au courage de Mgr Strickland et non pas un reproche. D'où vient que Mgr Strickland, et ceux qui l'approuvent d'ailleurs, qui est un évêque courageux, abandonne ainsi le troupeau en laissant la voie libre au loup. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est évident, c'est plus grave que cela, il s'agit d'une mauvaise théologie de l'Église, c'est-à-dire d'une mauvaise conception de l'Église. Nous passons ainsi à la deuxième partie du sermon. La première, c'était l'exposé des faits, et maintenant, nous allons voir quelle est la vraie théologie de l'Église. Je vous rappelle que le Concile de Trente insiste sur l'importance pour nous les pasteurs et nous les prêtres d'exposer la vraie théologie de l'Église, car, dit-il, c'est de là que viennent toutes les hérésies, tout le reste. Si on a une bonne théologie de l'Église, on saura qui est le Christ. Si on a une mauvaise théologie de l'Église, on ne saura pas qui est le Christ. Cette erreur est très répandue. Elle consiste à définir l'Église par le pape au lieu de définir le pape par l'Église. La plupart des gens considèrent, par exemple, que faire schisme, c'est se séparer du pape. Mais non, des théologiens disent qu'un pape peut faire schisme. C'est donc que ce n'est pas cela la bonne définition. Saint Thomas nous dit que faire schisme, c'est se séparer de la charité, c'est-à-dire de l'amitié qui unit les membres de l'Église. Et évidemment, les papes modernes, et particulièrement ce dernier pape qui est d'une grande violence envers les bons catholiques, brisent la charité, et donc se fait schismatique. Pour un peu, on en viendrait à définir l'hérésie comme le fait de s'écarter de l'enseignement du pape ou à la limite des conciles. Mais ce n'est pas ça. L'hérésie, c'est s'écarter de la foi, c'est-à-dire de la révélation divine. Et en tout cas, et c'est le cas de Mgr Strickland et de beaucoup de catholiques aujourd'hui, même si on ne va pas jusqu'à définir l'hérésie comme le fait de s'écarter du pape et que, heureusement, on sait qu'il s'agit de dévier de la foi et non du pape, beaucoup accordent au pape, dans le gouvernement de l'Église, une prééminence absolue, au nom de laquelle on ne pourrait jamais s'opposer à lui. Et emporté par ce mouvement, même lorsque ce gouvernement de l'Église s'oppose à la foi et au dépôt de la foi, puisque là il s'agit carrément du dépôt de la foi, on reste paralysé par une fausse obéissance. Pourquoi est-il important de définir le pape par l'Église et non l'inverse? C'est-à-dire que la théologie sur le pape est en dépendance de la théologie sur l'Église et non pas l'inverse. Parce que, à l'évidence, notre Seigneur a pensé son Église avant de fixer la place du pape au sein de l'Église. Notre Seigneur n'a pas commencé par penser le pape et lui donner une Église. Ce n'est pas comme lorsqu'un père de famille répartit son héritage, il pense d'abord à ses enfants, et à tel enfant, il attribue telle part d'héritage pour le récompenser de ce bon service, par exemple. Il ne s'agit pas de ça. Notre Seigneur a conçu l'Église pour la foi, pour la charité, pour le culte, et il a conçu le pape comme garant de l'unité, de la foi, de la charité et du culte. Les conséquences, c'est que c'est l'Église qui est indéfectible. En effet, notre Seigneur dit « les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle et non pas contre toi ». Lorsqu'il dit « tu es pierre » et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. En français, le mot pierre est ambigu. En latin, il n'est pas ambigu puisque tu es pierre Petrus, et sur cette pierre, ce rocher Petram, j'édifierai mon Église. Autrement dit, notre Seigneur, et ça c'est le commentaire de saint Thomas d'Aquin, notre Seigneur édifie l'Église sur une pétra, un rocher. Ce rocher, c'est la foi, car la foi est indéfectible, la foi ne peut absolument pas être autre qu'elle est, parce qu'elle repose sur la vérité de Dieu qui révèle et que Dieu ne peut pas être autre qu'il est. Monseigneur Lefebvre nous rappelait « Christus eri hodie et in saecula », le Christ est hier, aujourd'hui et dans les siècles, c'est-à-dire qu'il est le même, il ne change pas, il ne peut pas être différent. Voilà la Pétra, la pierre, le rocher. Et comme Pierre, le Saint Pierre est chargé de la défense de la foi, il reçoit un nom qui dérive du rocher et il s'appelle Petrus. Et d'ailleurs, aussitôt, notre Seigneur ajoute « Et les portes de l'enfer ne préventeront pas contre elle et non pas contre toi. » Si l'Église était fondée sur Saint Pierre uniquement, je sais bien qu'on peut d'une certaine manière dire que Saint-Pierre est le fondement de l'Église, mais au sens de Rome qui est le fondement de l'Église, au sens de la foi qui est le fondement de l'Église. Et c'est bien cela, puisque sinon notre Seigneur aurait dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi ». Et notre Seigneur va ajouter « Et toi, quand tu seras converti, confirme tes frères dans la foi ». Autrement dit, notre Seigneur annonce la trahison de Saint-Pierre. Et vous allez avoir trois déraillements de Saint-Pierre, le premier pape de l'Église. Vous avez un premier déraillement qui est une faiblesse mais qui le mène au reniement. Il renie notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, c'est par faiblesse, mais cela va très loin. Il va y avoir une erreur au concile de Jérusalem, et là saint Paul va lui résister en face, en lui disant qu'il se trompe sur la question de l'admission des rites juifs dans l'Église. Saint Paul lui dit qu'il n'est pas question, lui le juif, il n'est pas question d'accepter les rites juifs dans l'Église. Certes, saint Pierre va immédiatement comprendre la leçon de saint Paul, et donc cela n'aura pas de mauvaises conséquences. N'empêche que saint Paul a dû résister en face, c'est les mots même de l'Écriture sainte, « Resisti ei in facie »,« faciem », »,« je lui ai résisté en face », car il avait tort, car il se trompait. Et troisièmement, vous avez le coup au vadis, lorsque saint Pierre juge préférable de quitter Rome pour échapper à la persécution, et que notre Seigneur lui fait la leçon. Cela fait quand même beaucoup pour le premier pape, et on voit que la Providence l'a voulu ainsi pour notre instruction. Troisième partie du sermon, c'est la conclusion, ce sont les conséquences. Tout d'abord, Monseigneur Strickland, qui est un pasteur, et un vrai pasteur courageux, et non un mercenaire, s'est cependant comporté en mercenaire à cause d'une mauvaise conception de l'Église. De fait, il abandonne le troupeau alors que le loup lui demande de lui laisser libre le passage. C'est hélas le cas de nombreux évêques bons mais paralysés, de nombreux prêtres que nous avons connus dans la fraternité Saint-Pédis et qui estimaient ne pas pouvoir s'opposer au pasteur de la fraternité Saint-Pédis qui faisait entrer le loup dans la bergerie. Et ils estimaient que le courage que Dieu leur demandait, c'était de souffrir en silence et d'offrir leur souffrance pour la rédemption de la fraternité. C'est très beau d'offrir ses souffrances pour la rédemption de la fraternité ou de l'Église, mais c'est très mauvais de laisser le chemin libre au loup. Et cette contradiction vient d'une mauvaise conception de l'autorité, du pouvoir, du chef, du pape et, fondamentalement, une mauvaise conception de l'Église. Face à cela, pourtant, Monseigneur Lefebvre avait déjà remis les choses en ordre lorsqu'il disait « La foi est au-dessus du pape et non le pape au-dessus de la foi. Le pape est le serviteur de la foi. » Par rapport au gouvernement, il disait « Une loi est faite pour la vie. Si la loi mène à la mort, ce n'est plus une loi. » Certes, Il professait un grand respect pour le pape, mais en réalité pour la fonction pontificale. Mais c'est parce que la crise n'était pas encore autant avancée qu'elle ne l'est maintenant, et Mgr Vigano, lui, va plus loin, mais dans la même ligne que Mgr Lefebvre. Il veut nous libérer d'une fausse conception de l'Église, et il montre les vices de François, les vices moraux, et certainement il en sait beaucoup plus que ce qu'il a dit, les dérives doctrinales de François, et voire même quasiment une apostasie, puisqu'il affirme que ce pape n'a pas accepté la papauté pour édifier l'Église, mais pour la démolir, et que finalement, cet homme nous a trompés lorsqu'il a dit avoir accepté la papauté. C'est exactement dans la ligne de Mgr Lefebvre, sauf que le drame de l'Église a progressé, les ennemis de l'Église vont beaucoup plus loin que du temps de Mgr Lefebvre, et il est temps de libérer les catholiques, et particulièrement les pasteurs, d'une mauvaise conception de l'Église qui les emprisonne, alors qu'ils tiennent eux-mêmes les clés de leur prison. Saint Paul ne s'est pas laissé emprisonner par les erreurs de Saint Pierre. Saint Paul savait qu'il détenait la clé pour ouvrir la porte, c'est-à-dire pour montrer à Saint Pierre son erreur. Quant à nous, et je termine là-dessus, cela nous montre que notre premier devoir est de conserver la foi. Si nous mettons le pape en premier, si nous lui donnons plus d'importance qu'il n'en a, alors nous nous sentons abandonnés, abandonnés par la Providence, et nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes écartelés entre la fidélité à Jésus-Christ et la fidélité au pape que nous croyons être aussi une fidélité à Jésus-Christ. Tandis que si nous mettons l'Église en premier, le Christ est toujours avec nous et nous pouvons dire au sujet du pape ce que Mgr Lefebvre disait déjà, les théologiens plus tard se pencheront sur cette question, donneront les bonnes réponses. En attendant, nous en savons suffisamment par la foi pour savoir que nous n'avons pas le droit de dérailler. Il est nécessaire que vous preniez conscience, mes bien chers frères, que le Christ va vous demander, la Providence va vous demander de plus en plus de choix en vous appuyant sur la foi, là où jusqu'à présent, ces choix vous étaient sagement indiqués par la hiérarchie. Pourquoi cela? Parce que c'est une forme de persécution pour vous, et la persécution a toujours été semence de chrétiens pour ceux qui savent demeurer fidèles. Évidemment, hélas, elle est cause de perte pour ceux qui ne savent pas en profiter et qui deviennent infidèles. Que la Très Sainte Vierge, qui est forte comme une armée rangée en bataille contre les hérésies et pour la défense de l'Église, vous protège, vous guide, vous encourage, vous donne la fermeté dans la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.